Ô Dieu, nous nous souvenons que lorsque ton Fils passait de lieu en lieu sur la terre, il lui arrivait de s'arrêter et de lever les yeux au ciel pour t'adresser sa louange, sa prière. Et nous voudrions, comme lui, lever les yeux vers le ciel. Être conscient que nous sommes en communion avec notre centre réel, notre pays, notre terre, notre Seigneur. Que cette communion devienne réellement sensible pour chacune des âmes qui se trouvent dans cette clairière. Comme ce fut le cas le jour de la Pentecôte à Jérusalem, pour les 120 qui se trouvaient réunis en un lieu. Chacun reçut, sans exception, cette langue de feu qui allait lui donner la capacité de témoigner dans le monde des choses merveilleuses de Dieu. Ô notre Dieu, nous voulons te demander qu'après avoir dû entendre des choses peut-être pénibles qui nous rebutaient, nous puissions entendre les choses magnifiques de Dieu et que nos bouches puissent te célébrer et que ceux qui nous entourent puissent être eux-mêmes émerveillés d'entendre ce que ta parole a à leur dire pour ta seule voix et ton honneur. En Jésus, amen. Eh bien, mes amis, continuons en ce matin du 17 juillet les enseignements du Dieu vivant. Nous arrivons au chapitre 8 de ce livre des Proverbes. Et je pense que vous l'avez lu dans vos ateliers. Ce matin, nous avons donc à considérer le chapitre 8 des Proverbes. Jusqu'à maintenant, la sagesse, à part une courte portion du chapitre 1, versets 20 à 33, la sagesse, disons-nous, s'adressait à ses enfants, à ses fils, c'est-à-dire à ceux qui sont nés de nouveau et qui sont en relation vivante avec le Seigneur. Et à partir de ce chapitre, c'est à tous les hommes que la sagesse s'adresse. C'est un message maintenant qui est universel. Avant, on parlait à des enfants, à ses fils spirituellement. Maintenant, c'est le Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est donc le message universel que nous allons entendre. Mais hier, nous avons vu donc tous les traits de la femme étrangère, l'image de la folie du monde avec un grand S, qui murmure dans la nuit. Mais dès aujourd'hui, nous contemplerons et nous écouterons la sagesse de Dieu, la sagesse interpellant les hommes, et elle le fait en plein jour, tandis que la folie fait cela dans la nuit. Le monde est donc le domaine, comme on le voit dans les proverbes, de deux femmes qui exercent leur activité. Comme aussi, vous voyez dans l'Apocalypse, ces deux femmes sous d'autres noms qui reviennent. C'est la Nouvelle Jérusalem, c'est la femme de l'agneau, et l'autre s'appelle, comment ? Babylone. Alors, il y a deux villes, il y a deux femmes, c'est la grande prostituée, Babylone, et puis c'est la nouvelle Jérusalem, la femme de l'agneau. Mais avant d'entrer dans l'étude de ce chapitre, je voudrais revenir quelques instants sur la femme mariée, parce que je ne suis pas ici pour faire des belles conférences, je suis ici pour répondre à vos questions et à vos besoins. Or, hier encore, et c'était pas la première personne qui m'en parlait, même encore hier soir, on était surpris, étonnés, que dans les proverbes, il soit si souvent question de cette femme mariée et qu'on mette en garde les jeunes gens contre la femme mariée. Alors qu'aujourd'hui, me disait-on, c'est des jeunes filles de 13 à 14 ans qui sont un danger public, peut-être même pour des hommes mariés. Et là, alors, je pourrais vous en raconter des vers et des familles. J'ai un fils qui était doyen de la faculté des lettres et qui m'a raconté plusieurs fois comment ses propres étudiantes lui faisaient des clins d'œil et offraient tout ce qu'elles pouvaient offrir pour avoir des meilleures notes. Et comment il faut savoir résister. Et je pourrais vous parler de collègues de mon fils que j'ai connus aussi, qui ont abandonné leur femme pour des toutes jeunes étudiantes et ont fini par le divorce et vivent avec cette chair fraîche. Bien, vous savez, c'est quand même lamentable qu'après 20 ans de mariage, on arrive à céder comme ça à des tentations. Mais c'est bien là notre cœur naturel. Et nous ne jetons la pierre à personne, puisque nous voyons le cher David, le doux psalmiste d'Israël, l'homme si spirituel, qui vous édifie dans les psaumes et qui tombe avec Bathsheba, parce qu'il l'a convoité. Le cœur de l'homme est incurable, désespérément malin qu'il connaît. Alors, donc, on est étonné, parce qu'on dit, mais comment est-ce que, là, dans les proverbes, il n'est pas parlé de ces jeunes filles. Mais il faut parler de la femme mariée. Or, on nous dit, nous, quand on est marié, on a autre chose à faire qu'à convoiter. Et on convoite pas des jeunes gens. On n'a pas le temps. On a du boulot du matin au soir. On a petits enfants à élever. Alors, c'est pas nous qui sommes un danger public. Et c'est vrai que c'est choquant. Et on se dit, mais c'est pas tout à fait équilibré dans ces proverbes. Alors, pourquoi les proverbes nous mettent-ils en garde surtout contre la femme mariée? Bien, je voudrais vous donner un petit peu de clarté là-dessus. C'est que, évidemment, aujourd'hui, une femme mariée est très occupée. Et je suis tout à fait d'accord qu'elle n'a peut-être pas le temps ni le goût de séduire un autre homme. Mais, en Orient, au temps où Salomon parlait, vous le savez, la fillette, les fillettes, les jeunes filles n'avaient pas le droit de sortir, elles pas le droit d'être vues. Donc elles n'étaient pas en circulation, comme aujourd'hui. Elles étaient gardées à la maison. Je me souviens que dans un village, une personne disait, elle avait plusieurs fils, elle faisait dire à ses voisines, gardez vos poules chez vous, les coqs sont sortis. Parce qu'elle avait des fils. Elle avertissait, les coqs sont sortis, gardez vos poules chez vous. Eh bien, en Orient, on gardait les jeunes filles à l'ombre. Elles n'étaient pas vues. Ce n'était pas elles qui pouvaient tenter un jeune homme. Avec les exceptions, évidemment, qui confirment la règle. De sorte que les fillettes de ce temps-là, ou les jeunes filles, n'étaient pas, elles, très en cause. On dit que la femme mariée était la seule qui pouvait sortir. Elle jouissait d'une plus grande liberté. Et celle qui pouvait justement devenir un objet de tentation, ce n'étaient pas les pauvres femmes qui étant mariées, avaient plusieurs enfants et avaient la charge de famille, mais c'étaient des femmes riches, des femmes qui avaient des serviteurs comme il y en a en Orient, comme il y en avait, disons, en Orient. Et vous pouvez questionner ceux qui ont vécu dans ces pays-là, encore même ces dernières années, ou en tout cas avant la décolonisation. Je les ai vus au Vietnam, je les ai vus en Algérie, je les ai vus en Tunisie, je les ai vus au Maroc, je les ai vus aussi en Égypte. Eh bien, ces gens-là, ils avaient des boys, ils avaient des serviteurs. Et du temps de Salomon, il y avait aussi tous les esclaves. Alors, c'était des femmes qui n'avaient pas grand-chose à faire. Le mari, ayant une haute situation, était souvent loin, en voyage, très occupé, et alors, la paresse et l'oisiveté engendrent tous les vices. Et ces femmes n'avaient peut-être pas la télévision. Peut-être pas. Alors, il fallait qu'elles se trouvent une autre manière de se satisfaire, de sorte que la femme mariée qui avait des biens, c'est elle qui est visée dans les proverbes, parce que c'est elle qui était le danger public. Et je souligne, c'était pas les femmes pauvres. J'espère que ça vous donnera un peu mieux de, un peu plus de compréhension. Elle répondra à cette question. Nous arrivons donc au chapitre 8. Où vous trouvez l'appel de la sagesse, qui est vraiment la sagesse personnifiée, comme on a déjà eu l'occasion le saisir dans les chapitres précédents. Nous avons trouvé que la sagesse n'était pas quelque chose, l'intelligence n'était pas quelque chose, une idée, mais c'était une personne. Mais alors ici, ça devient absolument clair que c'est une personne qui est pleine d'autorité et qui se trouve en communion intime avec Dieu. De sorte que réellement, on peut voir dans cette sagesse ce que Paul appelle dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 24, le Christ, sagesse et puissance de Dieu. Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. Tandis que la sagesse du monde, dit l'apôtre Paul, elle est une folie. Alors, vous voyez que on rejoint, dans ce chapitre, on rejoint absolument l'enseignement de l'apôtre Paul. Alors il est dit que la sagesse crie, elle crie, et ça vous fait penser à qui? Qui, lorsqu'il était sur la terre, a aussi crié? Jean-Baptiste, puis après, Jésus lui-même, la dernière journée, alors qu'il est à Jérusalem, la grande journée de la fête, Jésus crie. Il crie, là, en plein public, là, au grand air, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de celui qui croit en moi. Jean 7, verset 37. La sagesse crie, Jésus, sagesse et puissance de Dieu, quand il était sur la terre, il criait dans tous les lieux où il passait. L'apôtre Pierre, parlant de ses souvenirs avec Jésus, dira devant Corneille et l'auditoire qui est réuni chez lui, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez l'événement, comment il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et il apportait à tous la bonne nouvelle. » Avec des délivrances, même des guérisons physiques. Alors, vous voyez donc la sagesse maintenant dans son activité en face de la suprême erreur qui plonge dans la mort, comme nous l'avons vu hier soir. Voilà la suprême vérité qui élève à la vie. La vérité est venue par Jésus-Christ. Il est la vérité. Et c'est la vérité que nous entendons de la bouche du Seigneur. Mais la vérité, il l'est lui-même. De nouveau, la vérité, c'est pas une doctrine. La vérité, c'est quelqu'un qui lui-même. Il est la vérité. Je suis, avons-nous lu ce matin, je suis la vérité. Et comme j'ai souvent employé cet exemple, vous me direz encore une fois que peut-être je me répète dans ces temps, mais tous n'ont pas assisté à ces temps, et puis Jésus, il s'est répété des centaines de fois. Vous n'allez pas penser qu'il a raconté la parabole du Samaritain, ou la parabole du bon berger, ou la parabole du fils prodigue qu'une seule fois dans son ministère. Il a raconté ça à bien des endroits parce que le Seigneur lui avait donné ce message. La vérité demeure et on n'a pas à avoir peur de se répéter. Mais la vérité, eh bien, ce n'est pas une formule qu'on aurait saisie intellectuellement. La vérité, c'est une personne. Et là, j'ai souvent donné cet exemple parce qu'il est vrai, vous pouvez avoir des connaissances de chimie et connaître la formule de l'eau, par exemple. H2O. C'est bien. Mais est-ce que ça vous donne l'eau quand vous êtes au désert? Est-ce que vous mourrez de soif? Ah, vous avez la connaissance de la formule. Si vous criez H2O, 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 mais vous périssez avec votre connaissance. Tandis que le bédouin, qui n'a pas été dans les grandes écoles, qui n'a pas fait de chimie, lui, sans sa connaissance, il sait, lui, alors, où se trouve le puits dans le désert. Et parce qu'il sait où est le puits, il vivra sans avoir la connaissance de la formule. Alors, faites bien attention. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, dans les églises, qui ont la formule de la connaissance, mais qui n'ont pas la vérité. Mais ils ont la formule exacte, on ne peut pas dire que c'est faux ce qu'ils disent. On ne peut pas dire que leur prédication est fausse, c'est ça qui est dramatique. Mais ils pensent que si les gens comprennent la formule, retiennent la formule, ça va marcher. Hein. Alors on les inscrit tout de suite comme convertis. Ils ont figé la formule. Puis même on vous enseigne comment faire pour que vous puissiez sauver une âme en moins de minutes possible. Ne s'en passe vite, hein. Alors, il faut qu'en 4 minutes, peut-être, vous arriviez à développer tout ça, n'est-ce pas, pour que l'âme ait saisi et puis qu'elle puisse mettre son petit nom au bas d'une feuille. Comme ça, hein, on fait un vrai travail, un travail en profondeur. Mais vous avez de l'intelligence et vous marchez dans tout ça. Oh, mais vos conducteurs vous conduisent. Oui. Alors là, quand je pense à ce qu'on a dit sur le catholicisme, n'appelez personne votre père, n'appelez personne votre conducteur. Tout ce qu'on a rabassé contre les catholiques. Un seul est votre conducteur, chrétien évangélique. C'est qui? Le Christ. Alors, si vous ne voulez pas d'un pape à Rome, faites attention de ne pas faire des soupapes. C'est quelquefois dit en tête et latérale. On est inconséquent, c'est quelque chose de dramatique. Alors, ne soyons pas satisfaits d'avoir une connaissance exacte des choses. Je peux vous expliquer le plan du salut, vous avez. J'ai compris et je peux expliquer à n'importe quelle âme le plan du salut. Je peux soigner n'importe qui. les mêmes remèdes, mes amis, ne peuvent pas être appliqués à tous les malades, même s'ils souffrent de la même maladie, parce qu'il y en a qui ne supportent pas ces remèdes. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce travail de masse comme ça. C'est chaque âme, chaque pas individuel, et respecter le cheminement de l'Esprit de Dieu dans les âmes, et croyez que c'est le Saint-Esprit qui opère. Et n'y mettez pas vos pattes. Respectez les âmes, et ne devenez pas des violeurs d'âmes dans votre zèle pour conduire les âmes au Christ. C'est le Père qui attire les âmes. Jésus lui-même disait, nul ne peut venir à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il faut que vous soyez remplis du Père, et que l'âme à laquelle vous parlez soit mise en contact avec le Père. Il faut qu'il y ait en vous cette nature du Père. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et alors c'est peut-être un témoignage d'abord silencieux, mais la personne qui vous regarde a discerné que vous étiez habité. Habité par quelqu'un d'infiniment grand, par celui que le monde voit toujours très loin, alors qu'il est au fond de notre cœur, tout proche. La vérité, c'est une personne. Être dans la vérité, c'est pas faire partie d'un groupe. C'est pas faire partie d'une communauté seulement. Oui, c'est aussi faire partie d'une communauté, mais c'est pas cela qui compte. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans un chemin, marcher dans les traces, c'est marcher comme Jésus a marché. Ainsi est la sagesse. L'intelligence, elle fait retentir sa voix. Et alors là, vous pouvez passer au sommet des hauteurs. Ça vous fait penser à quoi? Où Jésus parlait-il, par exemple? Sur la montagne, hein? La montagne pouvait être très bien une petite éminence, parce que les montagnes, évidemment, en Israël, elles sont pas hautes, à part l'Hermon. Mais même le mont Tabor, en Suisse, on dirait que c'est une montagne à vaches, parce que nous avons les Alpes, hein, mais c'est très bas. Mais pour ceux qui vivent là, ben c'est déjà une montagne. Ça. Mais enfin, le Seigneur allait sur les hauteurs, parce que là, il pouvait réunir peut-être une foule, on venait à lui. La sagesse parle au sommet des hauteurs, près de la route. C'est-à-dire que le Seigneur voulait avoir du contact avec les gens. Qu'est-ce qu'il y a sur une route? Les gens passent. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À la croisée des chemins, il y a plus de circulation. À côté des portes, il y a aussi du port à porte qui peut être fait. À l'entrée de la ville, c'est là ce qu'on appelait la porte de la ville. C'était le gouvernement. Dans toute l'écriture, dans l'Ancien Testament, la porte de la ville, c'est là que siégeaient les anciens. On allait à la porte et on trouvait le juge à la porte qui réglait notre affaire, notre conflit. Mais aussi à l'intérieur des portes. On peut entrer, mais sans enfoncer la porte, on peut frapper. D'attendre son ouvre. Et elle fait entendre ses cris. Homme, elle a un message. Et voyez-vous, si on veut vraiment aller, il faut avoir un message. C'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Là, vous voyez, c'est plus aux enfants, hein. C'est vraiment l'évangélisation. Stupide. Apprenez le discernement. Ou sœur. Ces gens qui, au fond, ne connaissent pas les vérités et qui ont besoin peut-être d'être enseignés. apprenez le discernement. Insensé, ça va plus loin que ce seul, ou niais, ou stupide, c'est quelqu'un qui finit. On lui croit, et moi je crois en rien du tout. Moi je crois parce que je vois. Hein. Vous entendez ces réflexions bien. Dans Dieu, j'ai jamais vu. Puis Dieu, pourquoi faire? Insensé. Apprenez l'intelligence, parce qu'on n'a pas réfléchi. Alors, notre ministère de témoignage, de vous tous, je ne parle pas de moi, eh bien, c'est de amener les gens à réfléchir. Et le grand mot de ceci, à écouter, pas à nous écouter, nous, mais à écouter ce que le Seigneur veut leur dire. Il a de grandes choses à nous dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Ce qui frappait les auditeurs de Jésus, parce que les paroles qu'il prononçait, on sentait qu'elles étaient vraies. S'il n'y avait pas de bruit dans ses paroles, c'était réellement la vérité. Des paroles de grâce, mais assaisonnées de celles, comme le disait l'apôtre Paul aussi, reprenant une expression de Jésus, ayez du sel en vous-même. Que c'est le sel? Le sel, il donne le goût à ce qui est fade. Les choses de Dieu, habituellement, elles sont fades pour le monde. Qu'est-ce qui donnera du goût aux choses de Dieu? C'est la vie des chrétiens. Si vous êtes le sel, vous donnerez le goût des choses de Dieu au monde. Parce que, en elle-même, pour le monde, les choses de Dieu sont fades. Comme ils disent ici au Québec, c'est plat. C'est plat. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas goûté. Qui n'ont pas goûté combien le Seigneur est bon. Mais, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Et alors, ayez du sel en vous-même pour donner le goût des choses de Dieu. Que votre vie soit telle qu'elle fasse en vie. Quelles que soient vos circonstances. Que réellement, vous ayez une vie qui se passe en vie. Qu'on désire avoir. Ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Vous savez que c'est vrai, hein. Ils ne pouvaient pas mentir. Tandis que les hommes, que Dieu soit vrai, dit Paul, et tout homme, menteur. On ne fait pas d'illusion. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires. Pour qui? Pour celui qui est intelligent. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligent? C'est retirer du mal. Mais tant que tu ne veux pas te retirer du mal, les paroles ne sont pas claires. Et tu es content qu'elles ne soient pas claires. Il y a des gens qui ne veulent pas même lire la Bible. Et quand on leur demande au fond pourquoi? Et parce qu'ils savent très bien que s'ils commencent à lire et que ils se rendent compte que la parole de Dieu, eh bien, il y a des choses qui doivent changer. Et alors, il vaut mieux ne pas savoir. J'ai mieux ne pas savoir. J'ai mieux ne pas lire la Bible parce que vous vous rendez compte, mais pourquoi? Mais parce que je ne veux pas changer. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie. Je sais bien qu'il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je sais bien qu'il est écrit, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, etc. Mais enfin, si je peux trouver par ces choses-là ce que moi je crois être le bonheur, je veux vivre ma vie. Et Dieu est, pour moi, un gêneur. J'ai mieux en savoir le moins possible. Et puis, si Dieu est Dieu, si c'est le bon Dieu dont on nous a parlé quand on était petit, eh bien, et il aura bien un coup d'éponge sur mes péchés, mes péchés mûrs. Voilà comment on raisonne. Bien, les paroles du Seigneur, elles sont claires pour celui qui est intelligent. Elles sont droites pour ceux qui ont trouvé la science. Oh, la science. C'est l'amour du Christ qui surpasse toute science. Préférez mes instructions à l'argent. Pour en arriver là, faut que le cœur soit changé, hein. réitérer mes instructions à l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que l'argent? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut rien faire sans argent. Pensons. Et la science, elle est préférable à l'or, le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que quoi? Que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Qu'est-ce qui a réalisé cela? L'apôtre Paul. Il dit, mais maintenant que je sais ce que c'est que la sagesse, que j'ai vu le Seigneur, moi qui étais avant un persécuteur, un outrageux, un blasphémateur, bien maintenant je fais la perte de toutes choses, j'estime toutes choses comme des ordures. Il dit pas, j'ai fait le sacrifice, j'ai renoncé à ceci, j'ai renoncé à ceci. Sinon, je me suis débarrassé de toutes ces choses. Même de ces avantages que j'avais selon la chair, ça ne compte plus pour moi. Parce que j'ai trouvé quelque chose de meilleur. Voyez-vous, c'est une vraie découverte. Et c'est ça qui donne l'attachement. Tandis que si je vous supplie, acceptez le Seigneur, je vous en supplie, acceptez le Seigneur, parce que c'est le dernier moment maintenant, et puis vous devez l'accepter maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. On prend toutes sortes de versets bibliques qui sont vrais, mais on veut absolument voir le fruit, voir le résultat. Ben de nouveau, je suis obligé de citer Saint Paul qui dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand vous avez mis une semence dans la terre, vous grattez le même soir pour voir si ça germe? C'est moi qui le dis. Mais ayez un peu de bon sens. Nous disons que nous sommes des évangéliques. Mais comment voulez-vous que on croit à notre évangile quand on voit le peu de bon sens que nous avons et que nous employons même dans nos méthodes d'évangélisation, usant de moyens spirituels pour communiquer des choses spirituelles. Mais maintenant, tous les moyens sont bons. Que cette propagande, ce slogan-là dans le monde, ça réussit, ça frappe les gens. On va avoir nous aussi des slogans. Et puis on va enfoncer ça comme slogan. On emploie toutes les méthodes du monde. Que le monde fasse ces choses-là, c'est le monde. Mais qui est le prince du monde? C'est Satan, l'illusionniste. Le menteur. Celui qui aime grossir toutes choses. Jésus. Remettez-vous à son école. Un seul est votre conducteur. Jésus. Et mettez le Seigneur au centre. Et vous serez béni. Et ne suivez pas n'importe qui, ou même quelqu'un, vous avez une confiance absolue en lui. On vient de faire une petite expérience. Tout à l'heure, en venant ici. J'avais ma petite sonnette, puis je passais, puis, poussé par un besoin pressant, moi je devais pas venir ici, je devais aller plus loin, et je vois tout à coup toutes les brebis qui venaient avec moi. Alors je me suis dit, on devra faire des pauses devant les toilettes. Tout à coup ils s'arrêtent et on dit, mais on avait confiance en moi, c'était le berger. Mais tout le monde était allé aux toilettes, on a dû se séparer, revenir en arrière. Alors, faites attention. On a fait cette petite expérience. Je pense qu'elle devait nous parler. C'est vrai, on peut avoir confiance en quelqu'un. On sait. Je ne veux pas vous mener. Ce n'est pas de rendez-vous. Vous voyez, tout dans la nature peut nous enseigner. Les petits détails, là, c'est même amusant. Mais ça peut aussi nous enseigner. Rien de ce qui fait nos délices ne les garde. Ah, quand on a trouvé, quand on sait qui nous a donné. Mais quand on vous dit, bien, vous voyez, on vous en supplie, vous aurez ceci, vous aurez cela encore. Ça me fait penser à ces marchands qu'on voit sur les foires foraines, n'est-ce pas? Alors, je m'excuse pour cela. Sur les foires, sur les marchés, j'ai évangélisé, là. Alors, on voyait des gens qui disaient, ils voulaient vendre leur affaire, comme il semblait que ça ne mordait pas, alors il disait, ben, on vous met encore ça par-dessus, on vous met encore ça, et tout ça pour le même prix. Alors, voilà, vous aurez cette grâce, puis vous aurez encore une autre, puis vous aurez encore une autre, pour que vous acceptiez. Comme si c'était une bonne affaire. Un rabais. Un spécial. Un spécial évangélique. Moi, la sagesse. Je demeure avec la prudence. Ou avec le discernement. Alors, bien des personnes me disent, au fond, ce qui nous manque le plus, c'est le discernement. Ben, c'est vrai. Les gens, ils sont peut-être très pieux, ils ont beaucoup d'amour pour le Seigneur, mais ils n'ont pas de discernement spirituel. Ils s'emballent pour une chose, pour une autre, et n'ont pas ce discernement spirituel. Bien, demander le discernement. Le Seigneur, il veut nous donner ce discernement. Il demeure avec le discernement, qui est en même temps la prudence. Je possède la science et la réflexion. La crainte de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? C'est la haine du mal. Voilà une explication de ce qu'est la crainte de l'Éternel. On a vu que c'est le commencement de la sagesse. Mais si c'est le commencement de la sagesse et que maintenant il nous soit dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, donc il faut commencer par haïr le mal et s'en séparer. Parce que si vous ne vous en séparez pas, vous n'aurez pas cette lumière et vous ne direz pas que toutes les paroles du Seigneur sont claires. Vous serez toujours dans le trouble. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Vous voyez pourquoi je disais qu'il fallait lire avec un cœur humble et prêt à se laisser corriger. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Quand vous êtes avec le Seigneur, vous avez quelqu'un de bon conseil. Je suis l'intelligence. Et qu'est-ce qu'il est aussi? La force. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Jésus, qu'est-ce qu'il était? Il était roi. Il était Seigneur. Tu es donc roi, disait Pilate. Tu es donc roi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je le suis. Je le suis. On retrouve le mot je suis. Je le suis. Je suis roi. Oui, il est roi. Et il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Par moi, gouverne les chefs. Souvenez-vous bien de cela. Les autorités ont été instituées par le Seigneur. Même si c'est un parti ou un autre, c'est pas ça qui compte. C'est de savoir que le Seigneur a donné l'autorité comme, au fond, une bénédiction malgré tout. Parce que s'il n'y avait pas l'autorité, il n'y aurait pas d'ordre. Les grands, tous les juges de la terre, c'est lui qui les établit. J'aime, verset 17, ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, me trouve. Ben, voilà, on a déjà eu ce verset, hein. Mais il faut chercher et aimer le Seigneur. Il aime ceux qu'il aime. C'est tellement beau. Ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse. C'est pas l'argent que vous devez trouver, chercher. C'est le Seigneur. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Salomon en avait fait l'expérience. Il n'a pas demandé de l'argent et il l'a eu comme personne n'en avait. Cherchez le Seigneur d'abord et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est tout à fait évangélique. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. C'est l'humilité qui conduit à la gloire. Mais celui qui veut se glorifier lui-même, il va finir dans la honte, parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Mon fruit est meilleur que l'or. Pourquoi son fruit? La sagesse peut-elle avoir un fruit? Qu'est-ce que nous avons vu plus loin, avant? Qu'est-ce que la sagesse? C'est un arbre de vie. Hein? Alors, un arbre de vie, il a un fruit. Et c'est de cela qu'il est question. Mon fruit, le fruit de l'arbre de vie, c'est meilleur que l'or et que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Parce que le jour où vous devez mourir, est-ce que votre or et votre argent, vous l'emportez avec vous? Vous ne l'emporterez pas. Vous n'avez rien apporté dans ce monde, vous n'emporterez rien. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Si vous saviez les biens que le Seigneur voudrait vous donner, il a des biens en réserve pour ceux qu'il aime. Mais vous ne les demandez pas. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions, vous pouvez les avoir, elles sont à vous, mais vous ne vous en servez pas. Alors, c'est là notre erreur. Mais justement, pour que ça devienne vrai, il vous faut une relation personnelle avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ. Il vous faut passer par Jésus-Christ. Quelle est votre relation avec le Dieu vivant qui vous enseigne ces choses? Il veut vous donner des biens exceptionnels. Et voyez-vous, vous pouvez lui faire confiance, parce que même les ennemis du Seigneur, ou plus exactement ceux que les grands de ce monde, du temps où Jésus était sur la terre, envoyaient, les gendarmes qu'on envoyait, les huissiers qu'on avait envoyés dans le chapitre 7 de Jean, pour saisir Jésus, ils étaient là quand ils l'ont entendu, ils sont revenus, sont ramenés Jésus au Sanhédrin. Et on leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas ramené? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Des gens qui devaient l'arrêter, ils ont été subjugués par cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voilà, ils étaient convaincus. Alors, est-ce que vous voulez aussi devenir ses disciples? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est lui que vous devez entendre. Alors, toute cette première partie correspondrait à quel moment de la vie de Jésus? Sa vie terrestre, hein? À quel moment du Fils, de la vie du Fils? Son ministère, n'est-ce pas? Alors là, vous avez son ministère. C'est le commencement que vous trouvez dans 1 Jean 1, hein? Ce qui était dès le commencement. Jean se rappelle les souvenirs depuis sa conversion. Et il raconte ce qui était dès le commencement. Et vous arrivez au fond au Jourdain, là, sans qu'il le dise. Hein. Il était disciple de Jean avec André. Et il continue ce qui était dès le commencement, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. Concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée. Quelle vie? Cette vie qui était auprès du Père. Elle a été manifestée. Et nous l'avons vue. C'est donc quelqu'un. C'est quelqu'un. La vie éternelle qui était auprès du Père, elle a été vue. Nous l'avons entendue. Donc, il a parlé. C'est lui. Ça, c'est le commencement de 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement. C'est la vie du Seigneur. Mais, à partir du verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source, chargé d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Alors, donc ça c'est l'éternité. Avant la création du monde. Alors, c'est quel commencement ça? Non? Jean 1, qui vient avant Genèse. ce qui était dès le commencement, maintenant c'est au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Puis c'est après, toutes choses furent faites par elle. Donc, le commencement de Jean, du prologue de Saint Jean, vient donc avant le commencement de la Genèse. Le premier commencement, c'est pas le commencement de la Genèse. Avant le commencement, Dieu était. Hein? Dieu est. Et la sagesse, qui est le Fils de Dieu, est de toute éternité. Toutes choses ont été faites par cette parole. Puis après, la parole devint chair. Alors, la parole qui devient chair, c'est le commencement de l'épître de Jean, dont nous parle l'épître de Jean. Là, vous avez le Seigneur préexistant, avant la création du monde. Il était Dieu. Et j'ai quand même été réjoui de penser qu'au Québec, l'an dernier, cette vérité a été annoncée, non seulement au Québec, mais à travers tout le Canada. Peu importe la personne qui a pu dire ces choses, mais enfin, ça a été affirmé que le Fils unique, le Fils de Dieu, il était Dieu. Il était Dieu de toute éternité. Parce qu'il y a beaucoup de théologiens qui vous disent simplement que la divinité de Jésus, elle n'est pas une divinité essentielle, mais qu'elle est une divinité fonctionnelle. C'est-à-dire que Jésus est devenu fils de Dieu quand? Au baptême. Au baptême, Dieu l'aurait choisi pour être fils de Dieu, pour faire fonction de fils de Dieu. Alors on dit, mais moi je crois aussi à la divinité de Jésus-Christ, mais cette divinité, pour certains, elle ne serait que fonctionnelle. Tandis que, selon les Écritures, la divinité du Seigneur, elle est essentielle. Il est de la même essence que le Père. Il est Dieu de Dieu. Il est vrai Dieu. Distinct, pourtant, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Donc, la parole, c'est le Seigneur, c'est cette sagesse dont nous parlent les Proverbes, c'est la parole. C'est la parole. La parole, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la parole. Et cette parole est une parole éternelle, distincte de Dieu, mais pourtant, de même nature que Dieu, elle était Dieu. Auprès de Dieu, mais elle était Dieu. Donc, nous ne devons jamais, quand nous pensons à la Trinité, parce qu'il y a aussi le Saint-Esprit, nous ne devons jamais séparer le Père du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que font les sectes. Alors, il y a les unitériens. Et puis, bien souvent, dans le pentecôtisme, on arrive à séparer presque le Saint-Esprit du Seigneur. Alors, vous auriez le Seigneur, mais vous n'auriez pas le Saint-Esprit. Alors, ne séparez jamais les trois personnes. Vous pouvez les distinguer, mais pas les séparer. C'est pourquoi aussi, en nous-mêmes, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Si vous les séparez, qu'est-ce que ça donne ? La mort, hein. Mais vous pouvez distinguer dans le vivant l'esprit, l'âme et le corps. Mais vous ne pouvez pas les séparer. Alors, retenons bien cela. Ça c'est l'éternité, hein. Le Seigneur avant la création du monde. Maintenant, vous avez le Seigneur à la création du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle sur la face d'abîme. Là, vous pouvez trouver Job 26, verset 10, qui nous montre que Job en savait long, au fond même, sur ce qu'était la terre. Il la voyait déjà dans le vide. Il suspend la terre dans le vide. Il suspend le nord dans le néant. Lisons-nous dans Job 26, au temps des patriarches. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et les sources de l'abîme, jaillir avec force. Mais évidemment, c'est un langage poétique, c'est pas un langage scientifique, ça. Mais c'est un langage poétique. Comme le plus grand des savants, quand il parle du soleil, il parle du soleil qui se couche. Mais on sait bien que le soleil ne se couche pas. Mais tout le monde emploie cette expression. Le plus grand des savants, l'astronome, il dit que le soleil se couche et que le soleil se lève. Mais par ça, c'est le langage habituel. Alors comprenez que dans la Bible, vous n'avez pas toujours le langage scientifique. La Bible n'est pas un livre de science. Quoique tout ce qui est dit dans la parole est vrai. Mais il faut voir quand même aussi le langage qui est employé, le langage littéraire. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes. Donc, avant même l'œuvre de la rédemption. Le Fils en communion étroite avec le Père, puisque toutes choses, le Père les faisait par le Fils, tout a été fait par lui et pour lui. Comme vous le lisez dans les Romains, au chapitre 11, aux merveilles de la sagesse et de la puissance de Dieu, que ses voies sont incompréhensibles, ses jugements sont là. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, et c'est pourquoi on peut adorer. Parce que quand on ne comprend pas, on n'explique pas, mais on a. J'ai pas besoin de comprendre. J'adore. Arriver à l'adoration, c'est arriver à être vraiment à cet éblouissement. C'est tellement merveilleux que on n'a plus de paroles. Alors, on se prosterne. Prosternez-vous, mes frères. Prosternez-vous, mes sœurs. Devant votre Dieu, il faut des gens qui se prosternent. Les musulmans nous devanceraient-ils? Il y a aussi une heure de salut pour les musulmans. Croyez-le bien. Alors pensez-y à ces musulmans qui sont dans notre pays, au Canada, qui sont en France, ont construit tant de mosquées maintenant, alors que les églises se vident de plus en plus. Dieu a aussi une heure pour eux. Et vous pourriez lire le chapitre 38 de Job, où vous entendez le Seigneur qui parle à Job et lui dit « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Quand les étoiles du matin éclataient de joie à la création, où étais-tu ? Nous qui voulons tout expliquer. » Le Seigneur était avec lui. Il était, dit la traduction littérale, son nourrisson. Qu'est-ce que c'est qu'un nourrisson ? Quand est-ce que vous étiez nourrisson ? Non, pas à la naissance. À la naissance, de 1 à 24 jours, on est quoi? Un nouveau-né. Et de 24 jours à 2 ans, qu'est-ce qu'on est? Un nourrisson. Puis de 2 ans après, on est un petit enfant. Voilà le vrai langage. Un nouveau-né jusqu'à 24 jours, puis depuis 24 jours à 2 ans, on est nourrissant. Mais en Orient, c'était encore plus long. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Il était son nourrisson. Qu'est-ce que c'est? Il était dans une communion intime. Il reposait dans le sein du Père. Le Fils de l'homme qui est dans le sein du Père. Une communion totale. Puis il trouvait son plaisir parmi les fils des hommes. Il aimait cette créature que Dieu allait faire et pour laquelle il se donnerait au cas où la créature ferait le mauvais choix, parce que Dieu voulait pas créer un être qui soit obligé de suivre. Alors, de la rédemption, il n'en est pas question ici. C'est seulement, on sait que le Seigneur trouvait son plaisir dans les fils des hommes. Et comme il avait son plaisir dans les fils des hommes, il les aimait tellement qu'il ne voulait pas et lâcher même s'il péchait. Il se révélerait à eux. Alors, on finit, verset 33. verset 32, « et maintenant ». Vous voyez de nouveau un « et maintenant », comme nous l'avons vu dans le chapitre 7. Dans le chapitre 7, après l'histoire terrible qui nous a occupé hier, verset 24, « et maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs à mes paroles. » Alors, maintenant qu'on a entendu qui était la sagesse, « et maintenant, mes fils, écoutez-moi. » Et bienheureux ceux qui observent mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez pas. Voilà l'appel de la sagesse. Et alors on a là le deuxième bienheureux, puisqu'il y a 8 béatitudes dans les proverbes. Verset 32, « Bienheureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction et soyez sages, ne la rejetez point. » Et alors, le troisième bienheureux, parce que c'est vraiment le terme, « Dieu est le Dieu bienheureux et ceux qui sont en relation avec lui sont des bienheureux, pas seulement des heureux, comme l'a traduit second. On est des bienheureux. Bienheureux l'homme qui m'écoute. » C'est un verset que j'ai aimé depuis mon enfance. Bienheureux l'homme qui m'écoute. Veillons à mes portes tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Veillez à ses portes. Vous avez compris? Qu'est-ce que c'est qu'une porte? Ça permet d'entrer, puis ça permet de sortir. Hein? C'est une issue. En Jésus, dans le Seigneur, il y a des portes. Alors, au lieu de courir à droite et à gauche, veillez à ses portes. Restez près de lui. Il est la porte et il a les issues. Il a les portes. Pour telle difficulté, pour telle autre, allez à Jésus. Il a les issues. Il a les portes. Veillez à ses portes. C'est lui qui vous fera signe. C'est lui qui vous montrera comment vous pouvez sortir de cette difficulté. Aucune épreuve, dit Paul, chapitre 10 de la première aux Corinthiens, verset 13, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été une épreuve humaine, et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, et avec l'épreuve, il fera aussi l'issue, ou il vous donnera le moyen d'en sortir. Le Seigneur est la porte. Je suis la porte. Alors, veillez à ses portes. Et veillez quand? Quand est-ce qu'on doit veiller? Chaque jour. C'est quelque chose de quotidien. C'est pas à dire, oh, il y a tant d'années que je suis sauvé. Mais est-ce que tu es sauvé aujourd'hui? Est-ce que tu es sauvé aujourd'hui? Est-ce que tu manifestes que tu es délivré aujourd'hui? Qu'il y a salut pour toi aujourd'hui? Parce que c'est ça qui compte. Alors, on pourrait faire une méditation. Vous pouvez noter les chaque jour dans la parole. Chaque jour. Il faut renoncer à soi chaque jour. Comme il est dit dans Luc au chapitre 9, verset 23. Et mourir, se considérer comme mort, on doit le faire chaque jour. Je meurs chaque jour, dit saint Paul. Dans 1 Corinthiens 15. Et puis, il faut aussi s'exhorter chaque jour. Hébreux chapitre 3. Il faut aussi une autre chose que les chrétiens de... pas les chrétiens, les juifs de Béré, de la ville de Béré faisaient, après avoir entendu ce que Paul disait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient chaque jour les Écritures. Et puis dans l'Église primitive, qu'est-ce qu'on faisait chaque jour? On rompait le pain chaque jour. On se souvenait du Seigneur chaque jour. Voilà ce merveilleux chapitre 8. Car celui qui me trouve a trouvé quoi? La vie. Il est la vie. Alors celui qui me trouve, il a trouvé la vie. Mais refuser, alors c'est rester dans la mort. Celui qui pêche contre moi, qu'est-ce qu'il fait? Il nuit à son âme, c'est pas à Dieu qu'il fait du mal. Hein? Parce que Dieu, vous ne pouvez pas l'atteindre. Mais il nuit à son âme, puis il nuit aussi à qui? À son prochain. Il nuit à son prochain. Et tous ceux qui me haïssent, bien qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment la mort. Et nos sœurs de France pourraient me dire si je me trompe, mais j'ai lu un discours de François Mitterrand, enfin ça avait passé à la télévision, paraît-il, et il disait, on a l'impression que les hommes aiment la mort. C'est vrai, hein? Les hommes aiment la mort. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, on se tue, on aime la mort. Ils aiment la mort. Alors, si vous ne voulez pas du Seigneur, c'est donc que vous aimeriez la mort. Mais le Seigneur, lui, il est la vie. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ouais, mais justement parce qu'on a le Seigneur, on doit avoir la sagesse. Alors on la demande. On la demande. C'est justement, venez à moi, et puis maintenant recevez mes instructions. On a besoin parce qu'on est venu à lui. Mais quand on n'est pas près de lui, on ne reçoit pas ses instructions. Ça revient ainsi. Mais évidemment, il faut que les conducteurs spirituels fassent attention à ce qu'ils disent. Parce que on dit beaucoup de choses et on fait beaucoup de mal. Surtout si on est revêtu d'un espèce de titre. Vous avez autre chose? Alors, nous allons... Oui? Mais bien sûr, si le groupe est d'accord. Nous sommes en démocratie. Est-ce qu'il y en a qui se sentent sages? Qui n'ont pas besoin de demander la sagesse? Mais bien sûr, il voudrait s'installer en nous. Il est venu avec son mobilier céleste. Mais nous, on veut garder nos vieux meubles. Alors, il ne peut pas s'installer. Alors, faites venir la déménageuse pour expédier tous ces vieux meubles pour que le Seigneur puisse s'installer comme il le veut dans son mobilier. Alors, sortez un moment, puis après, vous rentrerez et vous serez chez lui. En